la dispute. Musique. Arne Laporte.
Autour de moi ce soir, Sophie Bourdet, Emmanuel Giuliani et Lucille Como pour parler ensemble, de faire ensemble un retour sur les festivals d'Aix-en-Provence surtout et un peu Festival de Salzbourg. Nous parlerons du Requiem de Mozart dirigé par Raphaël Pichon, mis en scène par Romeo Castellucci, c'était à Aix-en-Provence, tout comme Tosca de Puccini dirigé par Daniele Rustioni, mis en scène Christophe Honoré, et aussi Grandeur et décadence de la ville de Mahagoni de Kurt Weill dirigé par Esa-Pekka Salonen, mis en scène par Ivo Vanov, toute production disponible en ligne sur Arte TV, tout comme Orphée aux Enfers d'Offenbach, dirigé par Enrique Mazzola, mis en scène par Barikowski. Et là, c'était à Salzbourg. Nous ouvrons cette dispute avec le plus beau spectacle que j'ai vu cet été, peut-être même cette année, peut-être même un peu plus. Il y aura un certain désaccord autour de cette table, je vous le dis tout de suite. Le Requiem de Mozart, se demandait de quoi j'allais parler. Dirigé par Raphaël Pichon, mise en scène Romeo Castellucci, donc c'était à Aix-en-Provence. On peut le voir, le découvrir, si on n'a pas eu la chance de le voir à Aix, sur Arte TV. Alors c'est vrai qu'une mise en scène du Requiem pouvait nous laisser dubitatif, même si la mode, quand même, est à la mise en scène d'œuvres non prévues à cet effet, les oratorios. Des Requiem de Mozart, d'ailleurs, il y en a eu 2 ou 3, me semble-t-il, dans les derniers mois. Castellucci lui-même avait d'ailleurs fait cela avec Il Primo Omicidio de Scarlatti au début de l'année à l'Opéra de Paris. Pour rappel, ce Requiem est une œuvre inachevée de Mozart. Mozart est mort avant de l'achever. Pour cette production, Raphaël Pichon a choisi d'insérer différentes pièces sacrées et profanes entre les différents mouvements, donc autres potentiels sacrilèges après la mise en scène du Requiem, et insérer d'autres éléments avant de développer, d'expliquer tout cela un peu mieux. Une première impression sur cette production, sur ce spectacle, Emmanuel Giuliani.
Esthétiquement, comme l'aspect visuel était confié à Romeo Castellucci, je m'attendais à un éblouissement et je l'ai trouvé moins esthète et inspiré que souvent, à part un effet incroyable qu'on pourra dévoiler tout à l'heure, qu'il a une efficacité. Si tout avait été de cet acabit, je serais sortie complètement pantelante et émue. Musicalement, j'ai été aussi un peu sur ma faim, mais la première a eu lieu 1 heure plus tard à cause d'un orage. Les musiciens, tout le monde ne savait pas si le spectacle aurait eu lieu, donc je pense que je n'ai pas entendu la version aussi libre qu'elle aurait pu l'être si il n'y avait pas eu cette épée de Damoclès de spectacle pas spectacle, spectacle pas spectacle, qui a été compliqué certainement pour les interprètes.
Là, c'était la version très concise de votre impression que vous allez développer, Emmanuel. Sophie Bourdet.
Alors, j'ai pas été aussi éblouie que vous, Arnaud, mais j'ai été plutôt séduite par ce qui me semblait être une méditation visuelle et musicale sur la fin des temps, très convaincante.
Lucille Como.
Moi, le sublime.
Ben voilà qui est. Alors qu'est-ce qu'on voit, Lucille Como, au début du spectacle? On parlait d'effets visuels de Romeo Castellucci, il va se passer beaucoup de choses, mais ça commence comment?
Oui, ce qu'on voit au début n'est pas vraiment représentatif de ce qui va se passer ensuite. Le rideau se lève sur un plateau qui est relativement nu, il y a un lit au milieu qui est un lit très sobre, avec une couverture très sobre, tout est bien fait. On est dans la pénombre, il y a une télévision en face de ce lit, d'où on entend des bruits qui sont des émissions, des bouts de films, des news, on ne sait pas exactement, en français en tout cas. Et entre ce lit et la télévision se tient une vieille femme qui fume une cigarette, elle est en chemise de nuit, à ses pieds il y a une pomme, et puis la télévision s'arrête, on entend alors une musique qui vient de très 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 loin, qui est un chant grégorien, un chœur de femme. Et là, elle se met dans le lit, elle recouvre son corps jusqu'au menton comme on fait pour une dépouille qu'on va veiller, et elle s'enfonce littéralement dans le lit jusqu'à disparaître complètement. Et c'est à ce moment-là que les musiciens dans la fosse commencent à jouer. C'est la Meistermusik, c'est pas tout de suite puisque, comme vous l'avez expliqué, Raphaël Pichon a choisi plusieurs autres pièces.
On va pas décrire ici tous les éléments scéniques de cette production, mais un rôle scénique important, on parlera de musique bien sûr, c'est celui qui est dévolu au cœur de l'ensemble Pygmalion. Emmanuel Giuliani, est-ce qu'on peut donner quelques images de ce que Romeo Castellucci leur a demandé de faire sur scène?
Alors, il leur demande, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on demande souvent maintenant aux choristes de non seulement chanter évidemment par cœur, ce qui n'est pas toujours le cas, notamment pour les œuvres sacrées où on chante en randonnion, voilà, avec sa partition, donc de chanter par cœur et puis de jouer, d'exprimer avec leur corps, avec leurs attitudes, en dansant aussi. Il y a une grande partie, je ne dirais pas chorégraphiée, parce que c'est pour moi un peu le problème, mais en tous les cas danser. Et donc, on leur demande une véritable performance qui, à la fois au début, peut nous dire, oh là là, la cohésion va-t-elle être respectée? Vont-ils réussir à chanter aussi bien que d'habitude tout en s'exprimant avec leur corps de cette façon? Et ça, ils y parviennent très bien. Donc on leur demande à la fois des gestuels parfois très organisés, très structurés, à d'autres moments d'une très grande liberté. Ils font ça impeccablement jusqu'à la fin où dans le dépouillement le réel, le plus absolu, ils deviennent des symboles de la disparition qui va réapparaître après, puisque ça va se terminer avec un petit enfant. Donc, il participe vraiment à ce cycle de la vie et de la mort qui est lié au Requiem et qui est lié aussi à ses œuvres. Ça, c'est extrêmement bien fait, que Raphaël Pichon insère dans la partition qu'on connaît de Mozart.
On peut peut-être commencer à se disputer, parce que vous avez dit pas chorégraphier, danser. Votre sentiment, Lucille Comeau, à ce sujet? Parce que c'est vrai que à plusieurs reprises, le chœur de l'ensemble Pygmalion va se mettre à danser. Au départ, donc des danses, on va dire, traditionnelles, qui sont au départ assez simples, mais qui sont quand même, au fur et à mesure du spectacle, de plus en plus élaborées, sachant
faussement simples, parce que au début, oui, les rondes, ça ressemble beaucoup à des danses un peu folkloriques, de rondes,
de tarentelles,
d'arbres de fête, voilà, de tarentelles. Il faut dire aussi qu'ils sont costumés, ça participe énormément de la chorégraphie, le costume, ils changent de costume à plusieurs reprises, et ils ont des costumes flamboyants, vraiment, alors là, pour le coup, extrêmement maîtrisés. Moi, j'ai trouvé ça impressionnant, le travail sur les costumes, qui changent à plusieurs reprises, qui sont extrêmement imposants. Moi, j'ai trouvé que c'était une gageure incroyable de faire d'engager un chœur entier à ce point-là physiquement sur scène, surtout pour ce type d'œuvre.
Non, parce que la chorégraphie, ce que je veux dire, c'était quand même une difficulté, une complexité grandissante. Il y a des temps à compter extrêmement précis. Quand on est en même temps en train de chanter cette partition, Sophie Bourdet, il y a une virtuosité, mais pas seulement. Pour moi, ça donne du sens, mais vous l'avez vécu comment, cette partie dansée?
Alors ces danses, moi, elles m'ont évoqué un opéra comme La Fille de Neige, par exemple. Elles m'ont évoqué ces danses qu'on pratique pour faire arriver le printemps ou pour conjurer la mort, justement, pour renforcer le collectif. Pour moi, elles ont une force symbolique extrême, et ce qui fait que non seulement je me suis pas ennuyée en les regardant, mais je les ai trouvées très très fortes. J'ai complètement marché. Après, je conçois complètement qu'on puisse ne pas ressentir ça. Mais moi, j'y ai vu une force symbolique extrême.
Sur la proposition de Romeo Castellucci, Lucille Comeau, qu'est-ce qu'on peut essayer de transmettre, nous qui avons énormément aimé ce spectacle? Parce que c'est vrai qu'il y a cette partition, il y a ces choix faits par Raphaël Pichon d'insérer, on va en parler, d'autres partitions. Et il y a ce cycle qu'évoquait Emmanuel Giuliani, de la mort, la vie, la mort, le recommencement, puisqu'il y a cette vieille femme qui disparaît dans son lit. Il y aura une femme d'âge mûr, enfin d'âge moyen, 30-40 ans, et il y aura cet enfant à la fin. Donc on voit bien qu'il y a il y a du temps qui passe, il y a un cycle de la vie. Comment vous avez lu, vous, cette proposition de Romeo Castellucci?
Mais c'est sans doute ça qui n'est pas très facile à exprimer, parce que c'est très simple, paradoxalement. C'est en effet très simple, c'est un cycle de la vie. Ce sont des rituels, comme vous le disiez, Sophie, qui sont païen, enfin presque paganiste, ce type de danse, des danses païennes. Moi, ce qui m'a beaucoup ému dans ce spectacle, c'est la manière dont tu as Romeo Castellucci, qui par ailleurs peut faire des choses extrêmement sophistiquées, de prendre au sérieux le rite, et vraiment de le prendre aujourd'hui, et de l'assumer jusqu'au bout, y compris dans sa réinvention. C'est-à-dire que lui, il a déchristianisé, entre guillemets, le Requiem, mais pour autant, il prend au sérieux la question de la transcendance, la question, en effet, de la mort, du Requiem en tant que forme qui doit amener à la fois l'angoisse et l'apaisement. Ça, je trouve que c'est un équilibre absolument parfait. Moi, j'ai eu vraiment des moments où j'ai été saisie d'une angoisse comme rarement je le suis devant un spectacle, et en même temps d'une forme de catharsis qui... à l'inverse, était vraiment assez profond. Après, c'est le moi laïque qui parle, et en plus un moi qui est quand même assez préoccupé par la question de ce qu'on fait des rituels aujourd'hui, quand on est une laïque comme moi, et qu'on a besoin de ces moments-là de transcendance, de partage, de spectacles qui réussissent à donner ça. Et là, j'ai du mal à en parler, parce que ça m'émeut beaucoup. Ouais. Je trouve comprends. Que c'est précisément ça qu'on doit nous montrer pour comprendre la mort aujourd'hui. Par exemple, pour moi, c'est ça qu'il faut, c'est ça.
Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné sur vous, Emmanuel Giuliani, ce que vient d'évoquer Lucille Gaumont, que je partage tout à fait, ne vous a pas atteint?
D'abord, un côté très composite, alors qu'il me semble que justement l'œuvre, même s'il y a toutes les sections du Requiem, avec évidemment des ambiances très différentes, des moments de véritable, comme le Dies Irae, comme le Rex Tremendae, qui sont des moments très saisissants, puis d'autres beaucoup plus suspendus, le fameux Lacrimosa, mais on a une grande unité, même si cette œuvre est inachevée, même si... Voilà. Et là, j'ai trouvé que c'était très composite, avec des propositions esthétiques si différentes que je n'arrivais pas à m'installer dans l'une de ces propositions, et tout de suite il y en avait une autre, et j'avoue que ça m'a perturbée. En plus, j'ai trouvé que toute la partie justement de ces danses rituelles folkloriques, moi contrairement à vous, j'ai trouvé les costumes beaucoup trop pesants, pas beaux. Tout ce qui est rameaux, palmes, fleurs, je trouvais ça moche comme tout. Et ça m'a étonnée de la part de Castellucci. Je trouvais que ça faisait vraiment les trucs en plastique qu'on trouve dans les supermarchés, quoi. Enfin, j'étais vraiment très étonnée. Et il me semble que tout ce que vous dites, Lucille, de manière très belle, sur l'interrogation, sur la mort, l'espoir, est tellement génialement porté par la musique que la vision scénique me semblait tellement infra que j'étais séparée en deux.
Et entre ces deux sentiments, Sophie Bourdet, plus mitigée pour vous?
C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire, je trouve que certains tableaux fonctionnent mieux que d'autres. Pour le Sanctus, on a une scène avec une carcasse de voiture où tous les choristes viennent s'encastrer les uns après les autres avant d'aller s'installer en fond de scène. C'est très long, très lent, on comprend pas trop ce que ça veut dire. Et là, moi j'ai tendance à... Enfin, mon esprit vagabonde dans ces moments-là, j'écoute la musique, mais je fais plus très attention à ce qui se passe sur scène. Et voilà, c'est plus ce côté inégal, la grande force de certains tableaux, et notamment des tableaux dansés, et des tableaux plus faibles comme celui-là, qui font que je ne suis pas complètement conquise.
Bon, on va entendre un extrait de cette production juste avant pour peut-être abonder dans le sens de Lucille Gaumont, dire que j'ai passé le spectacle, en fait, vous savez, penché en avant sur mon fauteuil, parce que pendant 1h30, c'est pas très long, hein, mais de la première à la dernière minute, j'ai rarement vécu un spectacle avec une telle intensité. J'essaie de goûter chaque instant. Alors non pas de comprendre, parce que ça fait longtemps que j'ai renoncé à vouloir tout comprendre dans les spectacles de Romeo Castellucci, mais je pense que ça agit sur différentes parties du cerveau en même temps. Et c'est ça qui est pour moi vraiment important, parce qu'il y a de la pure émotion, et en même temps, il y a des choses qui font appel à l'intellect, des choses qui font appel à une conscience, à une subconscience. Enfin, moi, ça m'agite en tous sens. Et c'est vrai qu'en sortant de l'Archevêché, dans un état d'excitation très grande. J'ai pas dormi très tôt ce soir-là, parce que vraiment c'est un spectacle qui ne cessait de travailler en moi. Donc du coup, bon, j'ai quand même évidemment regardé, comme peuvent le faire nos auditrices et auditeurs, la captation sur Arte TV, qui évidemment donnera pas la même chose que celles et ceux qui ont eu la chance de le voir depuis la salle. Mais je trouve que c'est quand même je crois qu'on peut pas rater cette captation, dans la mesure où, de toute façon, il y a tellement de choses à voir qu'on ne peut pas tout voir, et qu'on peut prendre des éclats et le revoir assez longtemps. Et moi, je vois des choses nouvelles à chaque visionnage. Lucille Gaumont?
Non, mais on va entendre la musique, mais ce que vous disiez, Emmanuel, il y a une cohérence absolue, moi, je trouve, entre ce que fait Pichon, justement, de la potentielle flamboyance. Là, c'est pas un Requiem qui est à la fois, c'est très flamboyant, et aux voix non plus. Moi, j'ai pas trouvé. Je trouvais justement que c'était assez en sous-régime, souvent.
Je suis d'accord avec vous.
Voilà. Et que ça correspondait très bien à ce que la mise en scène voulait faire, à savoir un Mozart. On n'a pas d'écrit, mais derrière, il y a quand même des inscriptions en permanence. Extinction 2, Extinction 2, en fait, c'est l'extinction
des listes,
de toutes les entités qui existent dans le monde.
Extinction des espèces animales, extinction des villes, des langages.
Les concepts, tout meurt jusqu'à extinction de tout.
Et ça, légèreté folle, ça.
Non, c'est pas d'une
légèreté folle. Moi, ça produit de l'effet sur moi à chaque instant.
Il y a des moments drôles aussi, à l'inverse, qui compensent. C'est le Mozart humaniste des Lumières. Pour moi, je me suis vraiment dit, bon, bah voilà, c'est la cérémonie laïque des Lumières, et ça allait bien.
Écoutons un extrait, le Kyrie. Le Requiem de Mozart, dirigé par Raphaël Pichon, tel qu'on a pu l'entendre au Festival d'Aix-en-Provence cet été, tel qu'on peut l'entendre et le voir sur Arte TV. Sophie Bourdet, un regard quand même sur ce montage de musique proposé par Raphaël Pichon.
Oui, qui est très intelligent et surprenant. Il part de quelque chose d'assez classique. Il prend la version complétée par Franz Xaver Süssmayer, qui n'est pas forcément la plus inventive, mais qui, dit Raphaël Pichon, est universelle. Mmh. Et il fait sa propre complétion, en accord avec Romeo Castellucci, qui a besoin aussi d'autres musique pour étayer son récit, et puis parce que, dit-il aussi, Raphaël Pichon, il veut changer nos conditions d'écoute et nos attentes. Et je trouve que ça fonctionne formidablement. Vous parliez, Lucille, de ces musiques a cappella, ce chant grégorien, cette musique maçonnique, et le Miserere avec chœur mixte, enfin, qui accompagne la mort de cette femme au début et qui précède l'entrée proprement dite dans le Requiem. Du coup, on glisse dans le Requiem d'une manière tout à fait stupéfiante. Et plus tard, on aura un solfeggio chanté par un tout petit garçon qui reviendra à la fin pour un paradisum absolument lumineux. On aura un air de basse, on aura un motet, et c'est toujours pertinent. Moi, j'ai trouvé ça toujours pertinent, et alors ça me dérange pas du tout qu'on bricole le Requiem de Mozart, parce que de toute façon, on l'entendra jamais. Le Requiem de Mozart, il y a que Mozart qui l'a entendu dans sa tête. Il en reste des fragments, il a été complété comme on a pu. On peut faire un peu ce qu'on veut du moment que c'est honnête et que ça a du sens. Et pour moi, ça a beaucoup de sens.
Ça avait du sens pour vous, Emmanuel Giuliani?
Oui, oui. Je faisais une grimace parce que l'enfant chante tellement faux, tellement mal que moi...
Ah oui, vous avez entendu le même, parce qu'il y en avait trois.
Très insupportable.
Surtout dans le solfeggio. In Paradiso était plus réussi, c'était le soir de la première.
Il était un peu moins raté.
Je ne sais pas si lequel est sur Arte TV.
Ça, je trouve que c'est...
C'est le même.
Oui, c'est un peu... Ça, c'est problématique. En revanche, c'est vrai que le montage est extrêmement bien fait, et on entend cette musique maçonnique extraordinaire. C'est plutôt, encore une fois, l'interprétation un peu contrainte en ce soir de première à cause des éléments déchaînés.
Bon, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'une scène, une maison d'opéra qui propose à Romeo Castellucci, à Raphaël Pichon de reprendre ce spectacle, parce qu'on se dit qu'on sommes des extrêmement, et on le sait, privilégiés d'avoir pu le voir en vrai, ce serait quand même bien que ce spectacle qui a nécessité beaucoup de travail soit repris. Enfin, Lucille, comme moi.
Je
ne
serais pas capable d'y retourner, mais...
Lucille, je vous accompagne. On irait ensemble cette fois-ci. Bon, on espère. Moi, c'est mon espoir, en tout cas, de revoir ce spectacle qui, pour l'heure, est visible, de fait, sur Arte TV. On a un riche programme encore à suivre. Tosca, Grandeur et décadence de la ville de Mahagoni et Orphée aux enfers.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Suite de cette dispute avec Tosca de Puccini, dirigée par Daniele Rustioni, mise en scène Christophe Honoré, c'était à Aix-en-Provence également, c'est sur Arte TV également. Cette première édition du Festival d'Aix sous la direction de Pierre Audi a fait la part belle à un répertoire assez récent, mais les amateurs de bel canto pensaient tenir leur doudou avec Tosca. Mais l'accueil le soir de la première a été, nous le confirmerait, assez houleux pour le metteur en scène. Qu'est-ce qu'il a donc osé, Christophe Honoré, Sophie Bourdet?
Ben, il a tout changé. Il raconte pas du tout Tosca. Enfin, la Tosca du livret a quasiment disparu. En fait, comme le personnage principal est une cantatrice, Floria Tosca, et que Tosca, comme vous dites, est un tube, c'est un des 10 opéras les plus joués au monde. Oui. Il y a tout un réservoir de mythes qui vont avec Tosca, la robe rouge du Vici d'Arte, de Glacalas, enfin plein de choses. Et ben, il en profite pour en faire une fable sur la transmission, une fable assez tragique, sur le passage de flambeau entre une vieille cantatrice sur le retour et une jeune Tosca. Donc il y a deux Tosca dans cette Tosca. Et beaucoup de vidéos qui permettent de faire des allers-retours constants entre le passé et le présent. Et c'est très virtuose. Moi, je trouve que c'est extrêmement bien défendu. Mais c'est vrai que c'est... si on n'a jamais vu Tosca, on doit être un peu perdu. Et si on veut une Tosca doudou, si on veut une Tosca un peu romantique, un peu lisse, un peu sympathique, bah on doit être furieux à la fin, effectivement.
Donc ça, en même temps, vous allez donner un premier sentiment sur ce spectacle, celui de Lucille Como.
Ah, moi, je crois qu'il a rien changé du tout, justement, parce qu'en effet, la diva est déjà une diva, et donc c'est pas la peine d'en rajouter autant. Enfin, on va développer, mais il y a trop de choses. C'est vraiment, ça étouffe tout.
Emmanuel Giuliani.
Non, moi je suis comme Sophie. J'y allais à reculons parce que la précédente expérience avec Christophe Honoré de son Così fan tutte m'avait horrifiée. Donc je me suis dit, allez, ça y est, je vais pas aimer, hein, je vais être ronchon et tout et tout. Et j'ai très bien marché parce que un peu dans un mode tout à fait différent comme Tcherniakov avait fait avec Carmen, il se saisit d'un totem lyrique pour justement nous montrer la force de l'art lyrique. Et en fait, c'est un hommage extraordinaire de quelqu'un qui dit qu'il ne connaît pas l'opéra, qu'il apprend à le connaître peu à peu. Je trouve que rarement on rend hommage à la force de l'art lyrique et à la musique chantée avec autant de puissance.
Bon, alors, Tcherniakov, pour rappel, il avait amené Carmen et Don José chez un...
Voilà, alors ce qu'il a un peu la manie de faire maintenant pour tous les opéras, alors on se lasse, mais pour Carmen, c'était mon sentiment, ça marche très 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 bien.
Donc convaincu par cette proposition, Emmanuel.
Tout à fait, oui.
Qu'est-ce qui ne vous a pas convaincu, Lucille Como?
Mais c'est assez symptomatique justement du discours que Christophe Honoré tient depuis des années sur son rapport à l'opéra, qu'on finit par plus tellement croire parce que maintenant ça fait quand même longtemps qu'il met en scène des opéras et dans des grandes maisons, donc je pense qu'il il commence à connaître un petit peu. Et comme si il jouait en permanence, et pourquoi pas, ça peut être intéressant avec cette forme de complexe, sauf que là il en fait une tonne pour assurer tous ses arrières, c'est-à-dire pour pas faire en effet une Tosca doudou parce qu'il veut pas faire ça parce qu'il est quand même un petit peu plus malin, pas non plus faire quelque chose de trop il y a trop de choses, il faut quand même décrire ce qu'il y a sur scène.
Allez,
c'est énorme.
Allez-y.
Il y a donc en effet ce dédoublement, donc le personnage de Tosca est interprété par deux chanteuses, on y reviendra. Le deuxième acte est symptomatique de ce trop-plein, il y a à la fois de la vidéo, deux écrans de vidéo, donc de la vidéo en direct, des images d'archives, des citations et que je te balance du Proust au milieu parce que c'est ça fait bien. Sur scène,
parce qu'il travaille sur Proust qu'on verra bientôt.
Ouais. Voilà,
des
reconstitutions de lieux qui font signe vers le cinéma de genre. Donc on a une sorte de bar tout rouge en velours, un tripot où ça joue. Donc il y a du film de mafia là-dedans. Par exemple, la scène de torture, tout est reporté finalement. C'est pas je me souviens plus de son nom.
Mario.
Du personnage, voilà, Mario qui se fait torturer, mais c'est l'assistant de la Tosca, la vieille, qui se fait torturer, qui est aussi l'escorte de Tosca. Enfin, tout ça n'a absolument plus de sens. Moi, je ne savais plus où, vraiment, je ne savais plus où poser mon regard. Total, je n'entendais et n'écoutais rien. J'arrivais pas à me concentrer sur la musique. Ça m'arrive assez rarement de pas me dire, bon, je vais quand même essayer de me concentrer sur autre chose. C'était étourdissant. Bon, le troisième acte, on en reparlera peut-être. Enfin, la fin est rattrape un petit peu quelque chose parce que c'est plus sobre, qu'il y a une vraie idée de mise en scène un peu radicale et que du coup on adhère un petit peu plus et on finit enfin par écouter un tout petit peu Tosca. Moi j'ai rien entendu de Tosca avant la fin, vraiment rien entendu.
Contrairement à vous, Sophie Bourdet, du début à la fin, cette proposition vous a convaincu, cet étourdissement, cet amas de signes ne vous a pas dérangé, au contraire?
Non, j'ai trouvé ça très très bien défendu. Emmanuel parlait du Così fan tutte qui partait aussi d'un parti pris très fort mais qui n'était pas défendu jusqu'au bout. Là j'ai trouvé ça extrêmement bien défendu. Je suis d'accord qu'au deuxième acte, avec ces deux écrans, il y a une complexification de l'intrigue, mais qui reste quand même assez cohérente, parce qu'en fait, cette jeune Tosca suit donc un parcours d'épreuve qui va l'amener au troisième acte, à l'apothéose, et on peut accepter de temps en temps, moi j'ai accepté de temps en temps de lâcher quelques éléments qu'après j'ai redécouverts en regardant la captation, mais qui m'ont pas manqué le soir de la première, et j'ai trouvé ça extrêmement fort et original. Mais là encore, ça n'est plus Tosca. C'est vrai, ça n'est plus la Tosca de Victorien Sardou.
Mais quel sens ça a, ce redoublement de Tosca, à part servir son obsession à lui, celle de Christophe Honoré, qui apparaît dans ses films, qui est la question de l'idole, qui est à mon avis pas quelque chose de très intéressant par ailleurs.
Mais parce
ça
que
n'a pas de sens,
Mais si, puisque ce qui est au centre de cette production, c'est le passage de flambeau.
Oui.
Et comment on accepte de se retirer du jeu ou pas, puisqu'on voit au troisième acte que cette ancienne diva, finalement, donne mais reprend ensuite et finit, ça finit tragiquement. Et donc tout ce passage-là, toute cette thématique-là, je trouvais très bien défendue depuis le premier acte où la vieille diva est en position de force, la deuxième où finalement elle accepte de passer le relais, et le troisième où enfin la jeune Tosca s'affirme et explose. Et je pense que ça peut correspondre aussi à d'autres situations vécues dans
mais beaucoup de clichés. Enfin, ça me semble reconduire un nombre de clichés justement sur l'art lyrique, sur les chanteuses, les grandes chanteuses. Enfin,
je trouve que ça va au-delà de l'art lyrique. Ça raconte ce que c'est de renoncer et de transmettre ou de refuser de transmettre in fine.
Alors, on va appeler à la rescousse Emmanuel Giuliani dans un instant pour vous départager, bien sûr, de cette All About Eve version Tosca. Mais on va quand même écouter ce qui se passait dans la fosse. Les sources. Alors, est-ce qu'il y a deux mots, un nom, qui pourrait vous mettre d'accord? Angel Blue. Non mais quel nom? Qui est Angel Blue? Lucille Como?
Oui, alors je ne sais pas si je vais être la mieux placée pour en parler, parce que moi j'ai vraiment eu du mal à écouter, comme je disais, même les chanteurs, et j'avais l'impression qu'elle donnait beaucoup, et peut-être
c'est
trop.
C'est la jeune Tosca, passer, donc.
Voilà, exactement, la jeune Tosca, qui est une chanteuse américaine, si je ne m'abuse. Moi c'était la première fois que je l'entendais, elle est très impressionnante, elle a des capacités de jeu, je pense, assez hors du commun. Mmh. Donc là, ça convenait, mais au niveau de la voix, par exemple, dans tout l'acte 2, moi me gênait tellement, et j'avais l'impression que ça la gênait aussi, l'effervescence autour d'elle, que il y avait presque du trop pour moi, du trop dans la voix, du trop dans le timbre, ça donnait peut-être presque un peu trop, et je trouve un peu pareil pour Joseph Calleja qui donc chante en face d'elle.
Angel Blue, Sophie Bourdais.
Elle m'a éblouie. Vraiment, ce sont ses débuts français, mais elle a déjà 10 ans de carrière derrière elle. C'est une jeune soprano américaine qui, effectivement, a du métier. Et j'ai trouvé la voix très belle, la tessiture impressionnante. J'ai trouvé aussi la présence scénique et l'expressivité qu'elle met à remplir ce personnage très étonnant. Et elle n'hésite pas à se mettre en danger quand même. C'est-à-dire, au premier acte, on l'avait trouvée un peu presque faiblarde. Et en fait, au premier acte, elle est mise en difficulté par la vieille soprano qui lui pique son premier air, qui la critique et tout. Et elle s'épanouit ensuite au deuxième et alors au troisième, elle est resplendissante. Moi, j'admire assez ses débuts français, ses débuts à Aix. Au début, elle rentre vraiment dans son rôle au risque de mettre sa voix, enfin de nous faire méprendre sur la qualité de sa voix. Ce qu'elle en fait après nous détrompe complètement. Et ça, j'admire vraiment.
Giuliani, même admiration.
Un très beau timbre, on a entendu là, beaucoup de rondeur, en effet sur toute la tessiture. On peut penser que dans quelques années, le médium et le grave seront encore plus opulents. Beaucoup de présence scénique, et puis elle fait très très bien ce que je trouve la mise en scène fait extrêmement bien, c'est-à-dire avec le Vici d'Arte, le tube de l'opéra qui lui-même est un tube, qui est le point de bascule de la mise en scène, où elle quitte son rôle d'apprenti Tosca pour devenir le personnage et la chanteuse qui incarne le personnage. Et à ce moment-là, la voix prend une espèce d'ampleur et de maturité. Et pour réussir à faire ça, c'est très fort. Et qu'elle gardera jusqu'au troisième acte, quand elle sera donc en version de concert, là, je crois qu'on peut le dire maintenant.
Avec l'orchestre sur la scène. Sur scène. Quelques mots justement sur l'orchestre Daniele Rustoni, pardon, je vous presse un peu parce que le programme est encore riche.
Formidable, je crois qu'on l'a entendu là aussi, c'est-à-dire il y a tout ce qu'on aime chez Puccini, c'est à la fois une grande opulence orchestrale, mais aussi des raffinements, des irisations extraordinaires, beaucoup de legato, énormément de passion et jamais de vulgarité. À mon avis, c'est la recette idéale pour un bon Puccini.
Sophie Bournet.
Oui, une direction musicale d'une grande limpidité qui est d'autant plus appréciable que la mise en scène est complexe. Et c'est un metteur en scène, c'est un directeur musical qui aime travailler avec les metteurs en scène et ça s'entend.
Là, vous opinez, celui-ci.
Oui, à tel point qu'en effet, quand l'orchestre est sur scène, on se dit, ah bah oui, là,
il se passe un mérite. Chose. Ouais. Tosca, Puccini, Daniele Rustoni et Christophe Honoré, c'était à Aix-en-Provence et c'est sur Arte TV.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Le troisième opéra, notre affiche, il y en a un quatrième à suivre. Le troisième, c'est Grandeur et décadence de la ville de Mahagoni, de Cordify, dirigé par Esa-Pekka Salonen, mise en scène Ivo Vano. C'est à Aix-en-Provence qu'on a pu le voir et c'est disponible également sur Arte TV. C'est un opéra créé en 1930. Il suivait l'opéra de Katsu qui associait déjà les talents de Brecht et Weill. Cette fois, il s'agit de raconter comment trois malfrats créent ex nihilo dans le désert, une ville où tout est possible pourvu qu'on en ait moyen. C'est surtout un moyen pour les fondateurs de Mahagoni de détrousser tous les chercheurs d'or. Ivo Vanov, comme Romeo Castellucci, a signé cet été sa première mise en scène à Aix-en-Provence. Qu'est-ce qu'on voyait sur scène, Lucille Comeau?
Alors la scène est grande ouverte, tout est à vue pendant le spectacle, donc ça bouge pas mal en arrière-scène. Il y a des portants, il y a des éléments de loge qui vont, qui viennent. Il y a du matériau vidéo, évidemment, parce qu'il y a de la vidéo en direct, de son aussi. Et puis, il y a un échafaudage mobile qui servira à la fois de balustrade et puis de montant pour un écran. Il y aura parfois deux écrans, mais il y aura un écran principal. Et sur cet écran, du texte, des ponctuations, des didascalies finalement qui ponctuent l'agrandissement de cette ville naissante, et puis de la vidéo en direct, comme très souvent et presque je crois toujours en fait chez Ivo Vanov. Voilà, les costumes sont contemporains, évoquent la vie ouvrière, prostituée, ouvrier d'un côté.
En train de réfléchir, il n'avait pas un reste électre de vidéo.
Je sais pas.
À la Comédie Française. Vous l'avez pas vu?
Non.
Bon. Impression synthétique, Sophie Bourdais, avant de développer.
C'est ma grande déception du Festival d'Aix cette année, j'ai été très déçue.
Emmanuel Giuliani.
Pareillement, j'en suis sortie fatiguée, énervée, en ayant eu l'impression de voir de la caricature, et tellement déçue qu'Esa-Pekka Salonen lâche les chiens de cette façon, j'en suis toujours pas revenue.
Lucille Comeau.
Moi j'ai vraiment trouvé ça très maîtrisé.
Un extrait de Mahagoni.
Disputons-nous.
Angenehm.
Bon, la dispute continue dans le studio pendant que nous diffusons l'extrait de Grandeur et décadence de la ville de Mahagoni, dirigé ici par Sapeka Salonen, mise en scène par Ivo Vanhove. Moi, j'ai vécu vraiment deux soirées avant et après l'entracte. Avant l'entracte, j'étais plutôt dans l'équipe Sophie Emmanuel et après l'entracte dans l'équipe Lucille. Et que ce soit scéniquement et musicalement d'ailleurs, il me semblait que pour le coup, Sapeka Salonen, ça jouait beaucoup trop fort et c'était presque trop gros par rapport à cette partition, qu'on perdait l'ambiance cabaret qui est quand même un peu intrinsèque aussi à la musique de Kurt Weill, et que je comprenais pas ce qui se passait tellement sur scène. Je trouvais qu'il y avait un peu de, c'est un peu comme Lucille, comme on voyait Tosca, beaucoup de, ça bougeait beaucoup sans que je comprenne grand chose, alors que la seconde partie, et musicalement et scéniquement, m'a paru d'une grande efficacité, d'une grande fluidité. Et là, vraiment, j'ai trouvé les Sapeka Salonen qui me fait chavirer. Pourquoi elle ne vous a pas convaincu, Emmanuel Giuliani?
Parce que je trouve, c'était, à part certains passages, là, on a entendu en effet un très bel accompagnement orchestral, mais j'ai eu l'impression de chanteur en bout de course, laminé entre une mise en scène qui, en effet, ayant un plateau vide, laisse leur pauvre voix, ce qu'il en reste, partir complètement en arrière, et un orchestre qui leur lance un marteau-pilon. Enfin, donc je me suis dit, c'est de la maltraitance de chanteur.
Donc vous dénoncez ce soir, voilà, cette maltraitance.
Mais c'est le bout de la course, Mahagoni, c'est précisément ça, non, que ça raconte.
Ce qu'on vient d'entendre là, et on voit bien ce qu'ils veulent faire, ils ont un magnifique style, ils n'ont plus du tout la voix pour chanter ça. Ils veulent bien le chanter, ils ne le peuvent pas. Alors, on peut dire que Carita, Matilda, Willard White, ils jouent de leur force scénique. On n'entend rien, mais on peut se dire, on se souvient, ça a été très grand chanteur. Oui, si c'est un spectacle sur les vocations de tout passe, tout lasse, pourquoi pas? Je trouve que c'est quand même problématique dans un festival du niveau d'Aix-en-Provence. Puis surtout, on ne fait pas une scène vide quand on a ses voix à cette disposition et qu'on a un chef qui joue comme une brute.
Lucille Gaumont.
Alors déjà sur juste la scène vide, alors moi j'ai pas vu une seule seconde une scène vide. Je trouve que l'occupation de la scène, elle est à peu près parfaite. Le chœur, la manière dont le chœur circule, crée des effets de collectif à des moments où il y en a pas a priori. La vidéo, bon là moi j'ai retrouvé le Ivo Vanhove que j'aime vraiment, savoir faire de la vidéo en direct en faisant passer des expressions en gros plan de visage, en tournant autour des visage des acteurs qui créent quand même des vraies choses scéniquement parlant. Moi, j'étais assez impressionnée. Il y a quand même tout un passage où il s'agit de décrire tous les vices qui existent dans cette nouvelle Babylone qu'est Mahagoni, où il y a un fond vert et où s'incrustent les diverses activités, donc pornographiques, disons, la grande bouffe, le jeu, la boxe, etc. Là, il se passe quand même pas mal de choses sur scène. C'est presque on est presque dans le film. Enfin, moi, j'ai beaucoup pensé au cinéma en permanence. Je trouve qu'avoir fait de Brecht, encore une fois, avoir fait confiance dans le théâtre brechtien qui consiste en effet à ce que ce soit pas du tout fluide, à ce qu'il y ait du bordel sur la scène, puisqu'il s'agit de créer des tableaux et de faire en sorte que le spectateur soit toujours mobilisé dans une attention très particulière. Donc, en effet, ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Les voix, elles sont jamais parfaites. Ça joue et ça chante plus exactement faux de temps en temps. Pour moi, c'était ça qu'il fallait faire sur ce type d'ouvrage-là. C'était là qu'on trouvait l'efficacité scénique et c'était là qu'on trouvait aussi l'efficacité allégorique et donc politique de l'ouvrage, quoi, vraiment.
Sophie Brandet.
Moi, j'ai trouvé ça très confus. J'ai trouvé les vidéos assez laides et l'œil est sans arrêt tiré vers les vidéos. On en oublie ce qui se passe sur scène et d'une certaine manière, c'est pas très grave parce que ce qui se passe sur scène, c'est confus. Ivo Vanhove sacrifie complètement la direction d'acteur à l'exploit technique qui est de réaliser cette espèce de film en direct. Et comme Emmanuel, alors moi je suis extrêmement contrariée, mais il n'y a pas que Ivo Vanhove qui fait ça, par cette manie qu'ont les metteurs en scène dans des théâtres aussi grands d'oublier qu'il y a besoin de décor pour renvoyer le son et pour aider les chanteurs. Je ne suis pas sûre que les chanteurs n'aient plus de voix. Bon, pour certains, si, peut-être. Mais pour le quatuor des bûcherons, pour Annette Dash qui chante Jenny, je pense pas que ce soit ça le problème. Je pense que ils sont dans des conditions où on ne peut pas entendre leur voix comme il faudrait.
Mais où on ne veut pas, peut-être. C'est peut-être un vrai parti pris, ces voix-là. Moi, je me suis vraiment...
Alors on a besoin de les entendre.
Si on n'a pas besoin de les entendre. Je comprends pas ce que ça veut dire.
Mais si. Et pareil, d'ailleurs, j'ai aussi un souci avec cette lecture que je trouve extrêmement littérale et sinistre de la pièce. Bon, la pièce n'est pas très rigolote, mais il y a quand même un peu d'espace pour l'ironie, pour l'émotion.
Il y en a, il y a du burlesque, il y a des scènes de saloon.
Et là, à part dans ce duo qu'on vient d'entendre, qui est un moment d'émotion, qui est peut-être le seul de la production,
non,
je trouve qu'il n'y a aucun espace pour se sentir en empathie ou même en... en petite identification avec ces personnages, et ce message qui est tellement actuel, du coup, passe complètement à côté.
Bon, on ne sera pas d'accord non plus sur ce Mahagonie, mais qu'on peut voir pour se faire une idée sur Arte TV.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Nous quittons Aix-en-Provence pour cette dernière séquence de notre dispute musicale avec, en prenant la direction de Salzbourg, où se donnait une production de Orphée aux Enfers d'Offenbach, dirigée par Enrique Mazzola, mise en scène Barry Koski, également disponible sur Arte TV. Un opéra bouffe qui parodie les anciennes versions lyriques du mythe d'Orphée. Ça a été le premier grand succès de Jacques Offenbach. On va tout de suite se mettre dans la musique, comme ça on varie un peu les plaisirs. Forcément, on n'est pas dans le même type de production que Requiem, que Tosca, que Mahagonie. Mais il y a beaucoup de plaisir à prendre. Je crois qu'on en a pris peut-être à des degrés divers. Qu'est-ce qu'on voit sur ce plateau, Sophie Bourdet ?
On voit une scénographie étonnamment fluide et ouverte pour un spectacle de Barry Koski, qui d'habitude fonctionne avec des grandes boîtes. Et là, on voit d'abord une chambre, un appartement, oui, la chambre d'un appartement du Second Empire, un peu grise, ce sont les costumes qui viendront donner des notes de couleur, avec un lit, une armoire, une porte et une cheminée surmontée d'un miroir. Et sur le lit, il y a Eurydice qui commence par faire la morte. Et il y a aussi un personnage qu'on verra tout au long du spectacle, qui est incarné par le comédien Max Hopp. Et on saura après que c'est John Styx, le valet de Pluton aux Enfers. Et ce personnage va doubler tous les dialogues parlés.
Plaisir de cette production, Lucille Como.
Plaisir lié surtout à cette idée-là, qui est quand même la grande idée. Je ne sais plus de quel Offenbach on a parlé à la fin de la saison dernière, mais où vraiment les dialogues parlés posaient problème pendant la production. Oui. Là, au moins, on a un vrai comédien qui prend en charge cette partie qui est quand même assez conséquente dans Orphée aux Enfers et qui est excellent. C'est-à-dire que les chanteurs sont réduits une grande partie du temps, réduits, c'est pas le mot, à des marionnettes qui ont une gestuelle et des numéros assez conséquents à faire. Et lui prend en charge à la fois leur voix, donc il fait des changements de voix incroyables, il fait des bruitages aussi en même temps. Moi, vraiment, le premier acte m'a soufflé de ce point de vue-là. Je regardais que lui, parce que je trouvais ça assez impressionnant. Et ça, c'est une excellente idée. Et c'est en effet ce qui permet d'apporter justement un peu de fluidité dans ce qui reste quand même, moi, je trouve, trouve, c'est la tendance de Barikowski, un peu une suite de numéros. Donc, on a le cabaret un peu queer, le numéro drag queen, le clip de Beyoncé, les claquettes, tout ça, c'est extrêmement flamboyant.
Mais bon,
on va pas bouder son plaisir, c'est quand même assez agréable à regarder.
Emmanuel Giuliani?
Alors moi, j'ai pas du tout aimé.
Ah,
même si
tout.
J'ai beaucoup admiré, en effet, ce Max Hopp, je me dis, j'aimerais, je sais pas l'allemand, mais j'aimerais bien le voir dans un spectacle vraiment théâtral. En revanche, mais peut-être à cause de la proximité de la captation des gros plans, j'ai été agressée visuellement en permanence. Je sais pas, est-ce que maintenant, avec l'âge, j'ai trop vu de spectacle, je sais pas.
Ce soir, vous n'aimez que Tosca sur quatre spectacles proposés, productions.
J'ai quand même infiniment préféré Requiem.
J'abondais dans votre sens.
Oui, peut-être c'est fluide, c'est bien fait, ils ont l'air de s'amuser, mais je trouve que c'est quand même un catalogue de vulgarité qui caricature un ouvrage qui certes est, met en boîte tous les vices, les excès, les hypocrisies du Second Empire. Mais on le sait, on a compris pourquoi il faut toujours nous prendre 40 000 stabilos pour nous expliquer les choses. Et puis je trouve, alors je parlais de maltraitance, le mot est excessif, mais je trouve qu'on n'habille pas Eurydice ainsi quand on a cette jeune femme-là. Ouais. Voilà, il y a des choses qu'on ne fait pas.
On pourrait se disputer assez longtemps sur les costumes dans les différents opéras.
C'est pas j'entends du tout ce que vous dites. C'est simplement, je trouve qu'on fait. Bon, il y a des choses qu'on ne fait pas avec les artistes.
Sophie Bourdet, vous l'avez vu à Salzbourg
ou... Non, et j'aurais bien aimé parce que. Moi, ça m'a plutôt réjoui, cette Eurydice aux enfers, parce que c'est vraiment Eurydice aux enfers, hein, Orphée et Palichon comme jamais. Mais là où je suis complètement Emmanuel, c'est que la captation pose problème à cause de cet abus de gros plan. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour être vues de loin.
Ouais.
Et là, les personnages sont très grimaçants, tirent beaucoup la langue, ont des maquillages.
En gros plan, c'est pas la même chose qu'assis dans une salle de spectacle,
et c'est vrai,
évidemment.
Que, du coup, ce qui ne serait sûrement pas du tout vulgaire sur scène, vu de loin, qui ajouterait au plaisir. Là, de temps en temps, c'est trop. Donc oui, il y a un effet de trop. Et en même temps, il y a tellement d'idées, tellement de choses drôles, comme Aristée, l'apiculteur qui arrive précédé par un petit balai d'abeilles. Il y a tellement... Et Anne-Sophie von Otter en institutrice suédoise avec sa couronne de cheveux, qui commence d'ailleurs par un invraisemblable monologue en suédois que traduit Max Hopp à sa manière. Moi, j'ai quand même beaucoup ri, mais je me suis dit, j'aurais vraiment préféré le voir sur scène.
Moi, je pense que ça a un peu vieilli, en fait. En effet, l'automatisme du parallèle entre le salon Second Empire, le vaudeville et le cabaret queer et toute cette possibilité-là qui est tirée, on n'en peut plus. Je pense que ça a un peu vieilli. Mais néanmoins, si on n'a jamais vu ça, c'est d'une efficacité assez redoutable, je pense.
Non, moi, j'ai jamais eu la chance d'aller à Salzbourg. Est-ce que c'est une production qui y trouvait sa place assez évidemment? Moi, c'est pas l'image que j'ai de Salzbourg, moi, Emmanuel Giuliani.
Salzbourg.
Oui.
Et puis surtout, le public il peut y avoir des sifflets, des protestations de temps en temps, mais il accepte énormément de choses. Bien sûr, c'est un public très, très riche, très, qui vient ici pour se montrer, des belles robes, qui paye ses places un prix fou, etc. Mais qui est, très ouvert, en tous les cas, apparemment.
Bon public.
Et qui est très bon public. Et qui peut ovationner une mise en scène à la Zeffirelli avec des petites jupettes et des perruques bouclées. Ou alors, ce genre de proposition. Ou une Salomé de Castellucci. C'est un public ouvert, sans doute plus que certains plus proches de nous.
Vous parlez de maisons situées ou dans le 9e ou dans le 11e arrondissement de Paris.
Éventuellement, ou je parle de moi-même qui ne suis pas du tout ouverte comme vous.
Comme on l'a vu ce soir.
Ce soir.
Je pense que vous en avez marre, vous n'aimez plus l'opéra en fait, Emmanuel.
Si, j'aime énormément l'opéra. Et...
Vous voulez venir faire des disputes de théâtre?
Non, j'en serais incapable.
Vous reposer.
Non, à l'opéra, je voudrais qu'on voit en France des mises en scène de David Boesch, dont j'ai vu ou revu trois mises en scène à Munich, qui est un metteur en scène merveilleux et qu'il faudrait qu'on invite en France parce que voilà.
Bon, il vous aura pas échappé qu'il y a enfin un nouveau directeur à l'Opéra de Paris, donc c'est un message qui lui est directement adressé?
Presque.
Bon, pas presque, non, pas presque, c'est un fait. Orphée aux enfers d'Offenbach, dirigé par Enrique Mazzola, dont on n'a pas dit un mot.
C'est très bien.
Voilà, quand même.
Et il faut dire qu'il a un sacré orchestre.
C'est pas mal non plus.
Mais c'est très bien.
Mise en scène Barikowski, c'était à Salzbourg et c'est disponible également sur Arte TV.
avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute avec David Dana, qui va d'abord nous donner la réponse du jeu d'hier, en nous rappelant tout d'abord la question, David.
Exactement. Quelles sont les 5 villes représentées dans l'exposition « Princes et princesses des villes » et la réponse est Dhaka, Lagos, Mani, Mexico et Téhéran.
Ce soir, on fait gagner des DVD du film Sunset de Lachlan Emmes, qui a reçu ce film le prix France Culture Cinéma des étudiants en 2019. Quelle est donc la question, David ?
Dans quelle ville de Hongrie le film Sunset a-t-il été tourné ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et David Dana. Prise de son ce soir, Jean-Frédéric. Réalisation, Alexandre Fougeron. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Un site sur lequel vous pouvez aussi réécouter nos émissions et bien sûr vous abonner à son podcast. Nous nous retrouverons demain à 19h pour une dispute art plastique. Cette fois, ce sera un retour sur les rencontres de la photographie d'Arles. Je serai en compagnie de Corinne Rondeau et Yasmine Youssi. 4 expositions à notre affiche, celle de Christian Lutz, celle qui réunit Eve Arnold, Abigail Heyman et Suzanne Meselas, celle de Tom Wood. Et enfin, une exposition thématique concernant la maison britannique 1970-2018.